2. Enchik et Cantab retournèrent au Sentier Rouge. Tout d'abord pour rendre compte de la journée aux anciens qui s'étaient réunis, exclusivement entre hommes. Puis pour les informer du paiement attendu pour ce travail. Roland rentra avec Rosa chez elle. Sa maisonnette se tenait en haut de la colline, surplombant un cabanon autrefois ravissant et aujourd'hui presque en ruine. À l'intérieur de ce cabanon, montant inutilement la garde, reposaient les restes d'Andy le robot messager, nombreuses autres fonctions. Rosalita déshabilla Roland, lentement et complètement. Lorsqu'il fut nu comme un ver, elle s'allongea sur son lit à ses côtés et le massa avec des huiles spéciales. De l'huile de chat pour ses douleurs articulaires et un mélange plus épais et légèrement parfumé pour ses parties plus sensibles. Ils firent l'amour. Ils jouirent en même temps, par un caprice de la physiologie que les idiots ont tendance à prendre pour un signe du destin. Dans le crépitement des pétards qui éclataient dans la grande rue de la Cala et les cris tapageurs des Folken, dont la plupart étaient déjà plus qu'éméchés à en juger par leur voix. « Dors, lui dit-elle, demain je ne te verrai plus, ni moi, ni Eisenhart, ni Overholser, ni personne de la Cala. » Tu as le don de vision, alors ? Demanda Roland. Il se sentait détendu et même amusé. Pourtant, même alors qu'il se trouvait au plus profond de sa chaleur à elle et au plus profond de ses va-et-vient, l'ombre de Susanna n'avait pas cessé une seconde de le tourmenter. Un membre de son quatête perdu. Même s'il n'y avait eu que ça à déplorer, ça aurait suffi à le priver de sommeil et de tranquillité.
« Non, » répondit-elle, « mais il m'arrive d'avoir des sentiments de temps en temps, comme n'importe quelle femme, particulièrement quand son homme s'apprête à plier bagage. »
« C'est ce que je suis pour toi, ton homme ?» Le regard de Rosalita était à la fois timide et déterminé.
Pendant le peu de temps que tu as passé ici, si fait, c'est ainsi que j'ai aimé te considérer. Me donnerais-tu tort, Roland ?
Il secoua immédiatement la tête. C'était bon d'être à nouveau l'homme d'une femme, même pour très peu de temps. Elle vit qu'il était sincère, et son expression s'adoucit. Elle se mit à caresser la joue maigre du pistolero.
C'était une heureuse rencontre que la nôtre, n'est-ce pas, Roland ? Une heureuse rencontre à la Cala ?
Si fait, gentille dame. Elle toucha ce qui restait de sa main droite, puis s'attarda sur sa hanche droite.
Et ses douleurs ?
À elle, il ne pouvait pas mentir. Abominable. Elle hocha la tête puis lui prit la main gauche, celle qu'il avait réussi à garder hors de portée des homarstruosités.
Et celle-là ?
Elle va bien, répondit-il. Mais ce disant, il éprouva un violent élancement, une douleur embusquée, attendant son heure. Ce que Rosalita appelait l'arthrite sèche.
« Roland ?»
l'interpella-t-elle. Si fait, elle posa sur lui son regard calme. Elle tenait toujours la main gauche du pistolero dans la sienne, la caressant, en sondant les secrets.
« Achève ta tâche avant qu'elle ne t'achève. »«
C'est ton conseil ?»«
Si fait, mon trésor. » Avant qu'elle ne t'achève.
3. Eddie était assis sous la galerie derrière le presbytère quand vint minuit et qu'entra dans l'histoire ce que les gens du cru appelleraient désormais le jour de la bataille de la route de l'Est. Après quoi, il entrerait dans le mythe à supposer que le monde survive assez longtemps pour le permettre. En ville, les échos de la fête avaient gagné en force et en fièvre, au point qu'Eddie en était venu à se demander s'il n'allait pas mettre le feu à la grand-rue tout entière. S'il s'en souciait ? Pas une seconde. Merci beaucoup, mais je vous en prie. Tandis que Roland, Susanna, Jake, Eddie et ses trois femmes, les sœurs d'Orisa, comme elles se faisaient appeler, tenaient tête au loup. Le reste des Folken de la Cala était allé se tapir en ville ou dans les rizières au bord de la rivière. Pourtant, dans 10 ans, peut-être même 5, ils se remémoreraient entre eux ces heures où ils s'étaient surpassés, en ce jour d'automne, tous unis autour des pistoleros. Ce n'était pas juste, et une partie de lui savait que ce n'était pas juste, mais de toute sa vie, il ne s'était jamais senti aussi impuissant, aussi perdu, et donc aussi mesquin. Il s'entraînait à ne pas songer à Susanna, à ne pas se demander où elle se trouvait et si elle avait déjà accouché de ce démon, mais il se retrouvait à penser à elle, quoi qu'il arrive. Elle était repartie pour New York, ça au moins, il en était certain. Mais quand ? Les gens se déplaçaient-ils dans des fiacres, à la lueur des becs de gaz ou bien dans des taxis antigravitationnels à réaction, conduits par des robots tout droit sortis de chez North Central Positronics ? Est-elle seulement encore en vie ? S'il avait pu, il se serait extirpé de ses pensées, mais l'esprit pouvait être si cruel. Il la voyait, dans le caniveau, quelque part dans Alphabet City, avec une croix gammée creusée dans la chair de son front, et autour du cou une pancarte portant l'inscription « De la part de tes amis de la ville d'Oxford ». Derrière lui, la porte de la cuisine du presbytère s'ouvrit. Il entendit le doux claquement de pieds nus. Son ouïe s'était singulièrement aiguisée, comme tout le reste de sa panoplie de tueurs. Et le cliquetis des griffes. Jake et Otte. Le garçon vint s'asseoir à ses côtés, dans le rocking chair de Callahan. Il était encore habillé et portait son crampon de débardeur, dans lequel Eddie aperçut le regard que le jeune garçon avait volé à son père, le jour où il avait fugué de chez lui. Aujourd'hui, il avait fait couler, pas le sang en tout cas, pas encore, de l'huile. Eddie eut un petit sourire, sans une pointe d'humour. « On n'arrive pas à dormir, Jake ?»«
Ah que !»
acquiesça Otte en s'écroulant aux pieds du garçon et en posant le museau entre ses pattes contre le plancher.
« Non, »
répondit le garçon.
« Je pensais à Susanna. »
Il marqua une pause, puis ajouta
« Et à Benny. »
Eddie savait que c'était normal, car l'enfant avait vu son ami exploser littéralement sous ses yeux. Bien sûr qu'il pensait à lui. Pourtant, Eddie ne put s'empêcher de ressentir un sursaut amer de jalousie. Comme si toute l'attention de Jake avait dû être consacrée à la femme d'Eddie Dean.
Ce gamin, Tavry, dit Jake. C'est sa faute. Il a paniqué, il s'est mis à courir, il s'est cassé la cheville. Sans lui, Benny serait encore vivant.
Et, à voix très basse, d'une manière qui aurait fendu le cœur du garçon en question s'il l'avait entendu, Eddie en était certain. Il ajouta.
Ce putain de Frank Tavry.
Eddie tendit une main qui ne se voulait pas réconfortante et caressa la tête du garçon. Il avait les cheveux longs, il aurait eu besoin d'un shampoing. Bon Dieu, il aurait eu besoin d'une bonne coupe. Il lui aurait fallu une mère derrière lui pour s'occuper de ça. Plus de mère à présent, pas pour Jake. Et il se produisit un petit miracle. Prodigué du réconfort réchauffa un peu le cœur d'Eddie. Pas beaucoup, mais un peu quand même.
« Oublie tout ça, » dit-il. « Ce qui est fait, est fait. »« Le cas ?»
fit Jake d'une voix amère.
« Tais-toi, car... »
Lâcha ôté sans lever le museau.
« Amen !»
répliqua Jake en éclatant de rire. Un rire qui avait quelque chose de dérangeant, tant il était froid. Jake saisit le regard dans son holster fait maison et le contempla.
« Celui-là pourra passer, parce qu'il vient de l'autre côté. C'est ce que dit Roland. Peut-être que les autres passeront aussi, parce qu'on n'ira pas à Vahadash. S'il ne passe pas, Enchik les camouflera dans la grotte, et peut-être qu'on pourra revenir les chercher.
« Si on atterrit bien à New York, » répliqua Eddie, « des armes, il y en aura des tas, et on les retrouvera. »
« Pas comme celles de Roland. J'espère vraiment qu'elles vont passer. Des pistolets comme celui-ci, il n'en reste pas un seul dans aucun monde. Voilà ce que je pense. »
C'était aussi l'avis d'Eddie, mais il ne prit pas la peine de le dire. De la ville monta une nouvelle salve de pétards, puis ce fut le silence. Ça s'apaisait enfin là-bas. Le lendemain, on ferait sans doute la fête toute la journée sur la pelouse, dans la droite ligne de la fête d'aujourd'hui, mais avec un peu moins d'alcool et un peu plus de clarté d'esprit. Roland et son cathète seraient attendus comme invités d'honneur, mais si les dieux de la création se montraient cléments et que la porte devait s'ouvrir, ils seraient déjà partis, sur la piste de Susanna, pour la retrouver, peu importe la piste. Il fallait la retrouver. Comme s'il lisait dans ses pensées, chose qu'il pouvait faire, il était fort avec le Shining. Jake dit
« Elle est toujours vivante.
Comment tu le sais ?
On l'aurait senti si elle était morte.
Jake, peux-tu entrer en contact avec elle ?
Non, mais... »
Avant qu'il ait pu finir, un énorme grondement monta de la terre. La véranda se souleva subitement du sol et se mit à onduler comme un navire sur une mer démontée. On entendait les planches gémir. De la cuisine leur parvint le fracas de la vaisselle qui s'entrechoquait, ainsi que des dents qui claquaient. Ôté leva la tête et émit une plainte sourde. Sa petite tête rusée avait un air comique et alarmé, les oreilles plaquées en arrière sur le crâne. Dans le salon de Callahan, quelque chose se brisa par terre. La première pensée d'Eddie, aussi illogique que prégnante, fut que Jake venait de tuer Suze par le simple fait d'affirmer qu'elle était toujours vivante. Pendant un moment, le tremblement s'intensifia. Un montant de fenêtre sortit du mur, faisant éclater la vitre. Une explosion déchira l'obscurité. Eddie supposa, à raison, qu'il s'agissait du cabanon qui rendait à présent l'âme. Sans même s'en rendre compte, il se retrouva debout. Jake se tenait près de lui, fermement agrippé à son poignet. Eddie avait dégainé l'arme de Roland et ils se retrouvaient là, tous les deux, prêts à ouvrir le feu. Des confins de la terre monta un ultime grondement, puis soudain, sous leurs pieds, la galerie s'immobilisa. Le long du rayon, à certains emplacements clés, des gens se réveillaient et regardaient autour d'eux, hébétés. Dans les rues de l'un des camps de New York, quelques alarmes de voitures se mettaient à hurler. Les journaux du lendemain feraient état d'un tremblement de terre mineur. Des vitres brisées, pas de victimes à déplorer. Rien qu'une petite secousse de ce soubassement bien solide. Jake fixait Eddie, les yeux écarquillés. Il savait. Derrière eux, la porte s'ouvrit et le père Callahan apparut sous le porche, vêtu de son caleçon blanc léger qui descendait jusqu'aux genoux. La seule autre chose qu'il portait était son crucifix en or autour du cou.
« C'était un tremblement de terre, n'est-ce pas ? J'en ai vu un en Caroline du Nord une fois, mais jamais depuis que je suis allé à la Cala.
Bon Dieu, c'était bien plus qu'un tremblement de terre !» lança Eddie en tendant le bras. La véranda était orientée à l'est, et au loin l'horizon s'illuminait de tirs d'artillerie en rafale, des salves d'éclairs verts et silencieux. En contrebas du presbytère, la porte du nid douillet de Rosalita s'ouvrit en grinçant, puis se referma en claquant. Elle et Roland gravirent la colline côte à côte, elle en chemise et lui en jean, tous deux pieds nus dans la rosée. Eddie Jake et Callahan les rejoignirent. Roland regardait fixement en direction de l'est, vers les éclairs qui déjà s'évanouissaient, et la terre de Tonnefoudre qui les attendait, la cour du roi cramoisi, et à l'extrémité du monde ultime, la tour sombre elle-même.
« Si elle est toujours debout, »
pensa Eddie.
Check disait justement que si Susanna était morte, on le sentirait, qu'il y aurait ce que tu appelles un sigleux. Et voilà ce qui nous tombe dessus.
Il tendit la main en direction de la pelouse du père, où une nouvelle crête était apparue, décollant le gazon sur 3 mètres, de part et d'autre de la tranchée, révélant l'ourlet brunâtre des lèvres de la terre. Un cœur d'aboiement s'éleva de la ville, mais les Folken demeuraient silencieux, du moins pour l'instant. Eddie se doutait que bon nombre d'entre eux n'avaient même pas ouvert un œil. Le sommeil du juste ou du soulard.
Mais ça n'a rien à voir avec Sus, pas vrai?
Pas directement, non.
Et ce n'était pas le nôtre, sinon les dégâts auraient été bien pires, tu ne crois pas?
Roland opina de la tête. Rosalita adressa à Jake un regard plein d'étonnement et d'effroi mêlé.
Pas notre quoi, mon garçon. De quoi parles-tu? Ça n'était pas un tremblement de terre, voilà qui est certain.
En effet, confirma Roland. C'était un tremblement de rayon. L'un des rayons qui tiennent la tour, qui tiennent tout ensemble, vient de lâcher, de claquer, c'est tout. Même à la lueur pâle des 4 scintilles qui vacillaient sous la galerie, Eddie vit le visage de Rosalita Munoz devenir blême. Elle se signa.
Un rayon? Un des rayons? Grand nom, dis-moi que ce n'est pas vrai!
Eddie se surprit à repenser à un vieux scandale qui avait secoué le monde du baseball.
Dis-moi que c'est pas vrai, Joe.
Je ne le peux pas, s'excusa Roland, parce que c'est bel et bien vrai.
Et combien y en a-t-il de ces rayons?
Demanda Callahan. Roland jeta un œil en direction de Jake, puis hocha légèrement la tête. Récite ta leçon, Jake de New York, et sois sincère.
6 rayons, qui relient 12 portails, annonça Jake. Ces 12 portails se situent aux 12 extrémités de la Terre. Roland, Eddie et Susanna ont réellement entamé leur quête au portail de l'ours, et ils m'ont récupéré entre ce portail et l'Ud.
Chardic, précisa Eddie, en contemplant les dernières étincelles qui embrasaient l'horizon vers l'est.
« C'est le nom de l'ours. »«
Oui, Chardic, »
acquiesça Jake.
« Nous nous trouvons donc sur le rayon de l'ours. Tous les rayons se rejoignent à la tour sombre. Notre rayon, de l'autre côté de la tour. »
Et sur ces paroles, il se tourna vers Roland et l'interrogea du regard, lequel, à son tour, regarda Eddie Dean. Même maintenant, semblait-il, Roland n'avait pas achevé son enseignement de la voix d'Elde. Ou bien Eddie ne vit pas son regard, ou bien il choisit de l'ignorer, mais Roland ne se laissa pas désarçonner. « Eddie ? » murmura-t-il.
« Nous nous trouvons sur le rayon de l'ours, sur la voie de la tortue ?»
répondit-il d'un air distrait.
Je vois vraiment pas ce que ça change, parce qu'on s'arrêtera à la tour, mais de l'autre côté, le rayon s'appelle rayon de la tortue, voie de l'ours.
Puis il se mit à réciter.
Vois la tortue comme elle est ronde, sur son dos repose le monde. Son esprit, quoique lent, est toujours très gentil. Il tient chacun de nous dans ses nombreux replis.
À ce stade, Rosalita prit le relais.
Sur son dos, la vérité va bien accompagnée, et voici l'amour et le devoir comme mariés. La mer et la terre, elle aime également, et même moi, malheureux enfant.
Ce n'est pas tout à fait ainsi que je l'ai appris au berceau, puis enseigné à mes amis, dit Roland. Mais c'est assez proche, par ma montre et mon billet.
La grande tortue s'appelle Maturin,
fit Jack en haussant les épaules.
Pour ce que ça vaut.
Vous n'avez aucun moyen de deviner lequel a lâché ?
Demanda Callahan en fixant attentivement Roland.
Le pistolero secoua la tête. Tout ce que je sais, c'est que Jake dit vrai. Ce n'était pas le nôtre. Si ça avait été le cas, il ne resterait plus rien à 200 kilomètres à la ronde, autour de Calabrinsturgis. Peut-être même à 1000 kilomètres, qui pouvait le dire? Les oiseaux eux-mêmes seraient tombés du ciel en flammes.
Vous voulez parler d'Armageddon?
Constata Callahan, à voix basse et troublée. Roland secoua la tête sans pour autant contredire tout à fait le prêtre.
« Je ne connais pas ce terme, père, mais ce dont je parle, c'est de la grande mort et de la grande destruction, c'est certain. Et quelque part, le long du rayon qui relie le poisson au rat, peut-être, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment.
« Es-tu certain de ce que tu dis ?»
demanda Rossa à voix à peine audible. Roland opina. Il avait déjà vécu ça auparavant, une fois, lors de la chute de Gilead, qui avait marqué la fin de la civilisation telle qu'il la connaissait jusqu'alors. Lorsqu'il s'était retrouvé à errer avec Cuthbert, Alain et Jamie et les quelques autres membres de leur quatette, l'un des 6 rayons s'était alors brisé, et ce n'était certainement pas le premier.
« Combien reste-t-il de rayons pour soutenir la tour ?» demanda Callahan.
Pour la première fois, Eddie sembla s'intéresser à autre chose qu'au destin de son épouse perdue. Il regardait Roland avec ce qui ressemblait presque à de l'attention, et ça paraissait logique. C'était en effet la question cruciale.
Toutes choses servent le rayon, comme on disait.
Et bien que la vérité fût en fait que toutes choses servaient la tour, c'était bel et bien les rayons qui la maintenaient debout. S'il se mettait à lâcher...
« Deux, » répondit Roland. « Il doit en rester au moins 2, je dirais. Celui qui passe par Calabrinsturgis et un autre. » Mais Dieu seul sait combien de temps ils tiendront encore. Même sans compter l'œuvre des briseurs, je doute qu'ils résistent très longtemps. Il nous faut faire vite.
Eddie s'était raidi.
Si tu suggères que l'on continue sans Suze...
Roland secoua la tête dans un mouvement d'impatience, comme pour dire à Eddie de ne pas jouer les idiots.
Nous ne pouvons pas atteindre la tour sans elle. Pour autant que je sache, nous ne pouvons atteindre la tour sans le petit gars de Mia. Tout est entre les mains du cas. Et il y avait autrefois un dicton dans mon pays. Le cas n'a ni cœur ni esprit.
Je suis tout à fait d'accord avec ça, répliqua Eddie.
Et on aura peut-être un autre problème à résoudre, hasarda Jake.
Eddie fronça les sourcils en se tournant vers lui.
On n'a vraiment pas besoin de ça.
Je sais, mais que se passera-t-il si le tremblement de terre a bloqué l'entrée de la grotte? Ou si...
Jake hésita, puis à contre-cœur, finit par exprimer ce qui l'effrayait réellement.
Ou si tout s'est complètement effondré?
Eddie l'attrapa par la chemise, serrant le tissu en boule dans son poing.
Ne dis pas une chose pareille! Ne pense même pas une chose pareille.
À présent, ils entendaient des voix en provenance de la ville. Les Falken devaient être en train de se réunir de nouveau sur la pelouse, pensa Roland. Il pensa même que cette journée, et maintenant cette nuit, resterait gravée dans les mémoires pendant un millénaire à Calabrinsturgis. Si la tour tenait bon, bien sûr.
Eddie lâcha la chemise de Jake, puis passa plusieurs fois la main sur l'endroit qu'il avait froissé, comme pour en lisser les plis.
Il tenta un sourire qui lui donna l'air faible et vieux. Roland se tourna vers Callahan.
« Les manies viendront-ils quand même demain? Vous connaissez ces gens-là mieux que moi. »
Callahan haussa les épaules.
« Henchik est un homme de parole. Maintenant, quant à savoir s'il saura se faire suivre des autres après ce qui vient de se produire, ça, Roland, je n'en sais rien.
Il a plutôt intérêt,
fit Eddie d'une voix sombre.
Il a vraiment intérêt à y arriver.
Roland de Gilead reprit.
Qui est partant pour un surveille-moi ?
Eddie lui jeta un regard incrédule.
On va être debout jusqu'à l'aube,
expliqua le pistolero.
Autant essayer de passer le temps.
Ainsi jouèrent-ils au surveille-moi, et Rosalita gagna main après main, additionnant leur score sur un morceau d'ardoise sans l'ombre d'un sourire de triomphe, sans même aucune expression que Jake fût capable de décrypter. Du moins, pas au début. Il fut tenté d'essayer le Shining, mais il avait décidé que, hormis pour les motifs de la plus haute importance, c'était mal d'en faire usage. S'en servir pour voir ce qui se cachait derrière le visage impassible de Rossa revenait à l'espionner pendant qu'elle se déshabillait, ou à les espionner en train de faire l'amour, elle et Roland. Pourtant, alors que le jeu se poursuivait et qu'au nord-est l'horizon finissait par s'éclaircir, Jake se rendit compte qu'il savait bel et bien à quoi elle pensait, parce que c'était ce à quoi il pensait lui aussi. De façon plus ou moins consciente, à partir de maintenant et jusqu'à la fin, ils allaient tous penser à ces deux derniers rayons. Attendre que l'un des deux, voire les deux, lâche. Que ce soit eux en train de poursuivre Susanna ou Rossa en train de préparer le dîner, ou même Ben Slightman pleurant son fils mort là-bas dans le ranch de Vaughan Eisenhart. Chacun d'entre eux penserait désormais à la même chose. Il n'en restait que deux, et les briseurs étaient à l'œuvre nuit et jour, à les ronger, à les tuer. Combien de temps encore avant la fin? Et quelle fin? Est-ce qu'ils entendraient le grondement gigantesque de ces énormes pierres anthracites en train de s'effondrer? Le ciel se déchirerait-il comme un misérable morceau de tissu élimé, vomissant les monstruosités qui vivaient dans ces ténèbres Vaadash? Aurait-il même le temps de hurler? Y aurait-il une vie après la mort? Ou bien l'enfer et le paradis eux-mêmes seraient-ils engloutis dans la chute de la tour sombre? Il posa le regard sur Roland et lui envoya une pensée, aussi clairement qu'il le put.
« Roland, aide-nous !»
Et une pensée lui vint en réponse, remplissant son esprit d'un réconfort glacial. Mais un réconfort glacial valait toujours mieux que pas de réconfort du tout.
« Si je le peux. »«
Surveille-moi !»
lança Rosalita en abattant ses cartes. Elle avait une vagabonde, la meilleure main, et la carte du dessus était Madame la Mort. Soliste.
« Comme à Comala, hé, voici un jeune homme armé d'un pistolet. Le jeune homme de ses yeux a perdu la prunelle quand sa chérie s'est fait la belle. »
Cœur. Comala et un. Sa chérie s'est fait la belle, tiens. Elle a laissé son bébé tout seul, mais il n'est pas encore dans le linceul.